Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette semaine, Science Publique vous propose l'émission mensuelle que nous réalisons avec le magazine Science et Vie. Et comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Quels seront les impacts du changement climatique sur la France ? Longtemps, le réchauffement climatique a fait l'effet d'une épée de Damoclès. Depuis les années 1990, les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, nous alertent sur les effets du changement du climat de la planète d'ici 2100. Certes, les conséquences annoncées d'une élévation de la température moyenne de la planète de 2 à 5 degrés étaient inquiétantes, mais elles restaient lointaines. D'autant que les climatologues affichaient une grande prudence en refusant souvent d'attribuer directement au réchauffement climatique certains événements météorologiques extrêmes comme les tempêtes, les inondations ou les sécheresses qui survenaient en France. Et puis le temps a passé. Désormais, le réchauffement climatique n'appartient plus uniquement au futur. Comme nous l'avons vu le 16 octobre avec notre émission enregistrée depuis Montpellier à l'occasion du passage du train du climat dans cette ville, le changement climatique est déjà à l'œuvre sur la planète et ses effets commencent à être perceptibles en France. Pour les explorer, le magazine Science et Vie a réalisé une enquête dans 6 régions françaises et dans les DOM-TOM afin de mieux caractériser ces impacts présents et futurs. Et c'est sur ce dossier que nous allons nous appuyer aujourd'hui pour mieux cerner ce qui est en train de se produire en matière de montée du niveau des mers sur les côtes, de recul de l'enneigement, de fonte des glaciers en montagne, de modification des cultures, de réduction du débit des fleuves. S'il reste délicat de se projeter dans un avenir qui semble encore lointain, la perception d'un phénomène déjà en cours devrait mieux nous convaincre de l'urgence d'agir pour limiter les effets négatifs du réchauffement climatique. C'est le défi que devra relever la COP21 début décembre et éviter ainsi d'ajouter un nouvel échec à ceux qui l'ont précédé. Pour débattre des effets du changement climatique sur la France, nous recevons aujourd'hui, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Éric Gilliardi, océanographe et climatologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'océanographie et du climat, à l'intérieur dans le cadre de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Éric Gilliardi est l'auteur avec Catherine Gilliardi d'un livre intitulé « Que feriez-vous si vous saviez des climatologues face à la désinformation ?» qui vient d'être publié par les éditions Le Pommier. Frédéric Huard est ingénieur de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA. Il est climatologue et membre de l'unité Agroclim. Il est avec nous par téléphone depuis Avignon. Sylvain Mondon est météorologue chargé de mission à l'Observatoire National sur les effets du réchauffement climatique, l'ONERC. Et Nicolas Viovi, spécialiste des interactions entre végétation et climat au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, le LSCE, une unité mixte CEA, CNRS et Université de Versailles-Saint-Quentin. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et témoignages sur le site de Science Publique sur franceculture.fr. Éric Gilliardi, bonjour.
Bonjour.
Alors avant d'entrer dans le détail des effets du réchauffement climatique sur la France, la première question qui se pose concerne justement ce calendrier du phénomène réchauffement. Faut-il aujourd'hui passer du futur au présent ? Et pourrait-on remplacer le titre de cette émission par « Quels sont les impacts du changement climatique sur la France ?»
Alors depuis une trentaine d'années qu'on s'est rendu compte que le climat se réchauffait du fait des activités humaines, il y a effectivement un certain nombre d'effets locaux que l'on commence à voir. Alors les premières régions touchées sont les tropiques, puisque dans les tropiques, en fait, la variabilité naturelle du climat, la météo, est moins importante qu'aux nôtres. Donc ça va être plus facile de distinguer un signal qui sort. Donc effectivement, premier impact dans les tropiques. À nos latitudes, on y arrive. On en reparlera pendant cette émission en détail, mais on commence effectivement à avoir les impacts du réchauffement climatique.
Alors une année un peu particulière avec le El Niño cette année. Alors, vous êtes un spécialiste.
Voilà, cette année nous avons donc un événement El Niño qui a démarré au printemps dernier, qui aura son maximum cet hiver. Alors El Niño a lieu dans le Pacifique tropical, donc ça peut sembler loin de chez nous. Il a d'abord des impacts sur l'ensemble des tropiques, mais aussi au moyen de latitude, parce qu'on appelle des connexions atmosphériques, des ponts atmosphériques qui se créent entre les tropiques et les moyennes latitudes, alors qui vont toucher au premier chef les États-Unis, en particulier la Californie, qui espère avoir un peu de pluie, puisqu'il y a une sécheresse, le Pérou et le Chili, mais aussi avec des impacts possibles en fin d'hiver jusque chez nous.
Voilà, on y reviendra. Sylvain Mondon, bonjour.
Bonjour.
Alors, en tant que météorologue, justement, même question à vous sur la mise au présent des effets du changement climatique.
Alors effectivement, la mise au présent, c'est effectivement l'objet du jour, puisque certains impacts sont déjà observables aujourd'hui. Alors, ils sont attribuables en partie au changement climatique. Maintenant, cette question d'attribution fait l'objet de recherches aujourd'hui. Mais les principaux signaux, comme la hausse du niveau marin ou la fonte des glaciers ou la hausse des températures moyennes, s'observent déjà aujourd'hui.
Voilà, on va en reparler, bien entendu. Nicolas Viovi, bonjour.
Bonjour.
Donc vous, c'est votre domaine, ce sont les interactions entre la végétation et le climat. Donc là aussi, peut-être un révélateur d'effets déjà perceptibles.
Oui, tout à fait. Alors une des premières choses qu'on constate, qui est un bon révélateur du changement climatique, c'est ce qu'on appelle la phénologie, c'est-à-dire les cycles végétatifs. Et en particulier le début de la saison. Donc parmi ces cycles végétatifs, il y a évidemment ce qu'on appelle le débourrement, c'est-à-dire le moment où la végétation va démarrer. Bon, et ensuite la floraison, par exemple, des arbres fruitiers. Et là, on constate déjà une avancée très sensible depuis les 30 dernières années, puisqu'on a dû gagner presque 15 jours. Donc sur ces différents stades phénologiques, la végétation montre déjà bien, est un bon révélateur du changement climatique.
Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait changer les dates du printemps, par exemple ?
Ah, les dates du printemps étant quelque chose d'astronomique,
voilà.
Donc on ne peut pas changer la date du printemps, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que si on considère le printemps en termes du moment où la végétation commence son activité, effectivement, elle commence son activité de plus en plus tôt.
Très bien, donc il va falloir s'habituer à ce que les arbres bourgeonnent plus tôt dans l'année, c'est-à-dire par exemple 15 jours, ça veut dire quelle date au fond est-ce qu'on peut?
Alors ça dépend beaucoup des types,
des régions aussi.
Enfin, des régions évidemment, il y a déjà un gradient important entre le nord et le sud de la France, et puis ça dépend aussi des espèces, il y a des espèces qui démarrent plus ou moins de façon plus ou moins précoce, mais disons que actuellement, enfin on va dire en moyenne, le début de la saison a lieu vers le 15 mars, et donc on pourrait s'avancer. Voilà, on a déjà gagné une quinzaine de jours.
Frédéric Huard, bonjour.
Bonjour.
Alors, même question à vous. Vous avez participé au projet Climator qui entre 2007 et 2010 a analysé justement les effets du changement climatique sur l'agriculture, et on parle très souvent de la vigne. Quels sont les signes les plus palpables aujourd'hui de votre point de vue?
Eh bien, comme le disait Nicolas aussi, donc une modification de la phénologie, des stades de développement de la vigne. On le voit donc effectivement avec le débourrement, la floraison, ces paramètres-là, mais aussi avec les dates de vendange. On a des enregistrements très anciens des dates de vendange, et on constate aussi une précocité de ces vendanges de l'ordre de 15 à 3 semaines depuis une trentaine d'années. Donc sur la vigne, c'est un marqueur très 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 bien explicité. On le voit aussi sur des cultures annuelles, c'est un peu plus délicat à analyser, mais on constate aussi, par exemple, pour le maïs, une date de semis qui est anticipée de l'ordre de 15 jours aussi à 3 semaines sur l'ensemble du territoire. Donc ce sont des marqueurs qui montrent bien que le climat a déjà un effet sur l'agriculture. Sachant que pour l'agriculture, elle est positionnée vraiment à l'interface pour le changement climatique, c'est-à-dire qu'elle va alimenter le changement climatique en émanant en provoquant et en mettant dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, mais elle subit aussi l'impact de ces gaz à effet de serre sur elle. Donc on est à un pivot à ce niveau-là, quoi. Après, on le voit aussi sur d'autres marqueurs, comme aussi les maladies des plantes ou des animaux, des ravageurs. On voit par exemple une remontée vers le nord très marquée, par exemple de la chenille processionnaire du pin.
Voilà, qui a franchi aux dernières nouvelles Paris,
Elle est aux portes de Paris. Enfin, le climat maintenant est favorable à une remontée plus au nord de Paris de la chenille processionnaire.
Alors qu'elle était au départ plutôt dans les Landes ou
dans le sud de la France. Et là, ce sont les conditions hivernales plus chaudes qui permettent la remontée vers le nord de la chaîne hydrocellulaire.
Alors on reviendra sur les vignes, mais peut-être à ce stade-là, Éric Gaillardy, faut-il préciser justement de quoi on parle en termes de prévision et de projection, on en parlait juste avant l'émission, et bien distinguer les deux, puisqu'on a des effets, mais les effets qui seront perceptibles dans l'avenir, c'est-à-dire d'ici 2100, risquent d'être encore plus forts. Tout dépend du scénario. Alors c'est la grande spécialité du GIEC de nous fournir ces scénarios, mais avec plusieurs possibilités possibles.
C'est oui, alors délire. Effectivement, il faut distinguer la prévision d'une projection. La prévision, c'est déterminé, c'est ce qui va se passer. Hein, c'est la météo des jours qui viennent. Une projection, ça dépend d'un scénario. Ça dépend des choix qu'on fait. Hein. Si je fais ceci, il va se passer telle chose. Si je fais autre chose, il va se passer telle autre chose. Donc ça, c'est très important de garder ça en tête. Donc les scénarios que nous fournissent des économistes et que nous, donc climatologues, nous allons mettre dans les modèles de climat qu'on utilise pour faire ces projections, puisque le futur, on ne peut l'accéder par définition que par modèle. On a deux types de scénarios, grosso modo. Un scénario sobre, où on arrive donc à limiter la COP21 et le début d'un processus qui va limiter fortement nos émissions et rapidement. Et donc on arrive à émettre quasiment zéro tonne de carbone, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère à horizon 2100. Et l'autre, le scénario du laisser-faire, où là on continue comme aujourd'hui. Donc la France qu'on aura, ou le monde et la France en particulier à la fin de ces deux scénarios n'ont rien à voir. Hein. Et on pourra revenir au choix qui a été fait dans le Science et Vie de prendre un scénario médian. C'est pas forcément le meilleur exemple pour ce qui nous attendrait.
Sylvain Mondon, comment vous analysez cette perspective? Est-ce que aujourd'hui, les effets dont on parle sont le début de quelque chose qui est irrépressible, ou bien est-ce que effectivement notre action peut avoir peut agir sur les transformations à venir?
Alors c'est à la fois les deux. Une partie des effets du changement climatique est irréversible parce qu'il y a déjà beaucoup de carbone dans l'atmosphère et le temps que le cycle naturel du carbone fasse diminuer la concentration, ça va mettre un peu de temps. Donc ça c'est un premier point. Il y a une inertie du système aussi qui a accumulé de l'énergie et qui a cette énergie maintenant. Donc c'est pour ça qu'on observe déjà des effets, cette énergie excédentaire. Mais malgré tout, comme ce qui vient d'être dit juste à présent, les scénarios possibles, en fonction des choix qui seront faits par les sociétés humaines, permettent d'entrevoir vraiment deux grandes familles de scénarios. Hein, la famille de scénarios du laisser-faire. Effectivement, là, on va avoir un changement climatique qui ne pourra que s'amplifier, puisque l'énergie accumulée en excédent va continuer de s'accumuler. Par contre, dans les scénarios où les émissions sont réduites rapidement, ce qui est la perspective des négociations climatiques mondiales, rapidement et de manière importante dans le long terme pour arriver à des émissions proches de zéro à la fin du siècle. Dans ces scénarios-là, effectivement, on peut imaginer stabiliser l'évolution du climat à des niveaux qui sont moins dangereux que dans le cas du laisser-faire.
Alors, au niveau général, il faut quand même préciser que c'était très net dans le train du climat, la courbe que vous tous les deux vous qualifiez de laisser-faire, c'est-à-dire en gros de continuer à émettre de la même façon qu'on a émis depuis pas mal de décennies, ce scénario, il se trouve qu'on est dessus pour l'instant. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas nier le fait que les projections qui ont été faites à partir de, je crois, 2010, il se trouve qu'on est exactement sur la courbe du laisser-faire aujourd'hui. Éric Gaillardy.
Alors effectivement, ces prévisions étaient faites à partir de 2005, en fait, même 2005, un peu plus tôt, hein, oui. Donc c'est ces simulations donc, du futur. Et la trajectoire que l'on suit donc depuis 10 ans est effectivement celle du laisser-faire, puisqu'on ne fait rien. On parle beaucoup, c'est bien, mais pour l'instant on ne fait rien.
Voilà, c'est un peu l'échec des précédentes COP.
Alors, je ne sais pas si on peut voir ça comme un échec. Il faut le temps, c'est tellement énorme et compliqué comme problème qu'il faille du temps pour accepter qu'il y a un problème, commencer à faire quelque chose. Voilà, maintenant, il faut essayer d'aller plus vite que ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que juste pour vous donner un chiffre de consommation de nos dioxydes de carbone. Pour rester en dessous de 2 degrés de réchauffement, ce qui est un chiffre bon, sur lequel on pourra discuter, disons entre 1,5 et 2.
On peut quand même dire aujourd'hui où on en est
Alors aujourd'hui, on en est à peu près 0,9 degrés de réchauffement au niveau global. Dans la France, c'est dans la moyenne. Il y a un degré de réchauffement en France.
Donc ça, c'est par rapport à 1850 ou à 1990.
Voilà, ça par rapport à 1850.
1850.
On prend le début de la période industrielle. Et en fait, de 1850, si on démarre en 1850, nous avons un crédit de 3000 milliards de tonnes de CO2 à émettre pour rester en dessous de 2 degrés. Donc ça, c'est le niveau qu'il ne faut pas dépasser, quelle que soit la quantité de temps qu'on met pour y arriver. Aujourd'hui, on a déjà émis 2000, dont 1000 depuis 1970. Si on ne fait rien, on arrivera aux 3000 dans 25 ans. Et tout l'enjeu donc du scénario sobre, c'est d'utiliser ce crédit qu'on a de 1000 milliards de tonnes pour arriver à zéro de façon la moins douloureuse possible pour nos sociétés.
Oui, et là, c'est pas gagné, comme on dit, dans ces cas-là, parce que ça crée une transformation de cette courbe, une inflexion de cette courbe extrêmement brutale, d'une certaine façon, pour arriver à ce résultat.
Alors, brutale, mais elle sera d'autant plus brutale qu'on mettra du temps à s'y mettre.
Alors, en effet, donc on va revenir sur les effets qui, aujourd'hui, donnent l'alerte. Mais avant, je voudrais qu'on précise quand même cette distinction qu'il y a entre variabilité naturelle du climat et évolution à long terme. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préciser parce que sinon on va avoir du mal à comprendre de quoi on parle. Sylvain Mondon, vous êtes météorologue et souvent on se tourne vers les météorologues pour leur demander justement si un événement qui a lieu en France aujourd'hui, cet été ou l'été dernier ou cet hiver, est lié au réchauffement climatique. Et les météorologues ont beaucoup de mal à répondre à cette question, donc je vous la repose pour avoir une explication sur cette difficulté.
Alors, effectivement, sur un événement individuel, il ne sera jamais possible de conclure de manière absolue, parce que ce n'est pas parce qu'un climat se réchauffe qu'on va arrêter de battre des records de froid. Par contre, ils seront battus moins fréquemment. Il faut voir ça comme ça. La variabilité naturelle, c'est l'oscillation autour d'une moyenne. Et quand on parle de réchauffement climatique, on parle de l'évolution de cette moyenne et de la fluctuation. Alors, même si elle n'est pas connue, elle a de grandes chances d'être dans la plage qui est connue aujourd'hui, même si celle du futur n'est pas complètement connue. Donc cette variabilité d'une année à l'autre est importante dans le climat de la Terre. Elle est supérieure en termes de valeur absolue au signal de la moyenne, mais ce signal de la moyenne est bien présent, et la variabilité autour de cette moyenne peut être projetée en première approche pour le futur.
Alors, un des effets, justement, de cette variabilité, c'est El Niño qui perturbe profondément le climat de la planète tout entière et qui peut avoir un effet, par exemple, de refroidissement, d'une certaine façon, du climat pour une année précise, Éric Guillardy.
Alors, El Niño sera plutôt un réchauffement. C'est les années El Niño qui seront un refroidissement.
C'est la Niña, oui, son phénomène inverse.
Effectivement, alors, si vous voulez, pour prendre une image qu'on connaît bien, quand le printemps arrive, il y a des jours qui sont froids et des jours qui sont chauds. Mais la moyenne se réchauffe lentement puisque le soleil, l'orbite de la Terre autour du soleil change et donc on reçoit plus de chaleur. Pour l'évolution de la température globale de la Terre, c'est la même chose. Donc il y a ce qu'on appelle ce forçage externe qui vient des activités humaines, qui se superpose à l'activité solaire, à l'activité des volcans. Et cette augmentation va se superposer, enfin à cette augmentation va se superposer des variations naturelles. Alors là, c'est plus la météorologie locale, un jour froid, un jour chaud, ça va être des phénomènes d'ampleur planétaire, comme par exemple El Niño, ou des variations dans l'Atlantique, qui vont pendant un an, deux ans, faire monter le thermomètre de quelques dixièmes de degrés, puis ça va redescendre après. Donc en fait, le signal qu'on observe aujourd'hui, quand on prend ces courbes de température globale, c'est la superposition, cette tendance à long terme, et de variations autour de cette tendance, comme la météorologie pendant le printemps. C'est pour ça qu'il faut faire attention de... C'est pas parce qu'on va avoir deux jours froids au printemps qu'on va dire que le printemps est fini et qu'on est en hiver. Hein, c'est la même chose, c'est pas parce qu'on a deux années froides ou quelques années froides qu'on va dire « Ah, le réchauffement climatique s'est arrêté ». Il faut faire des longues moyennes qui sont en rapport avec les mécanismes physiques impliqués.
Oui, c'est là qu'on entre dans une autre temporalité que celle à laquelle on est habitué. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu ce débat sur un palier du réchauffement climatique depuis 1998. Or, on voit qu'on en sort lentement, que les dernières années, aussi bien 2014 que 2015, ont été les plus chaudes, je crois, depuis qu'on fait des relevés. Mais c'est un phénomène qui peut être mal interprété, parce que c'est difficile d'avoir une vision très, très globale de ce qui se passe quand on a le nez sur le guidon, c'est-à-dire la température qui fait une année donnée.
Tout à fait. 1998 était une année El Niño, d'ailleurs, voilà. Une année El Niño extrême, hein, c'était le plus fort El Niño. Cette année, 2015-2016, sera sans doute un El Niño de même ampleur, hein, donc d'ampleur assez exceptionnelle, puisqu'on en connaît que deux ou trois bien observés. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi une part de... On a ce sentiment qu'on vit dans le temps, dans la météo, dans l'expérience. La température globale, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expérimenter. Donc, il y a une certaine confiance à avoir dans la science, dans les observations qu'on a, dans la compréhension qu'on a, même si ça peut sembler parfois étonnant, voire incroyable.
Très bien. Donc, on va revenir sur les effets concrets dans quelques secondes.
France Culture, Science Publique, Michel Albergonti.
Quels seront les impacts du changement climatique sur la France? C'est la question dont nous débattons aujourd'hui avec nos invités, Éric Guillardy, océanographe et climatologue, Frédéric Huard, ingénieur de recherche à l'INRA et climatologue, Sylvain Mondon, météorologue à l'ONERC, et Nicolas Viovi, spécialiste des interactions entre végétation et climat au LSCE. Alors, ce numéro de Science et Vie sur lequel nous nous appuyons fait état d'un très grand nombre d'impacts. On pourrait commencer par ceux qui concernent la culture et revenir plus en détail sur ce qu'on peut observer aujourd'hui. Nicolas Viovi, comment vous donneriez les choses qui vous paraissent les plus nettes en matière d'impact dès aujourd'hui sur la culture en France?
Sur la végétation en général. Donc, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a différents effets antagonistes, en fait, si on regarde un petit peu l'effet du changement climatique sur la végétation. Il y a donc des effets positifs et des effets négatifs. Donc l'augmentation de la température, donc ça a un effet, je le disais tout à l'heure, d'avancer la phénologie des plantes. Donc ça veut dire que pour un certain nombre de plantes, elles vont avoir un cycle plus long, elles vont pouvoir démarrer plus tôt et donc avoir une période de productivité plus importante. Alors ça, c'est vrai par exemple pour des arbres, c'est moins vrai pour les cultures qui est en fait une période qui dépend de la température et finalement plus il va faire chaud, plus leur cycle va se réduire. Donc finalement elles vont pas profiter de ce facteur-là. Pour la végétation naturelle c'est plus vrai. En revanche, quand on atteint des températures plus fortes, là on a des effets négatifs parce que d'abord la photosynthèse, la réponse de la photosynthèse à la température, c'est une sorte de courbe en cloche, hein, c'est-à-dire que quand il fait froid, la photosynthèse n'est pas très efficace. Elle atteint un optimum pour nos régions autour de 25 degrés. Et ensuite, quand on dépasse ce seuil, eh bien, au contraire, la photosynthèse devient moins efficace jusqu'à arriver à des niveaux où, éventuellement, on va avoir une destruction des tissus parce que les tissus vont brûler, hein, quand on atteint des températures. Surtout que la température des feuilles peut être bien supérieure à celle de l'air. Hein. La végétation, c'est quelque chose de très sombre, donc qui absorbe de l'énergie. Et donc, on peut se retrouver... s'il fait 35-40 degrés dans l'air et qu'on est dans une situation de stress hydrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau à évaporer, eh bien, on peut atteindre des températures de 50 voire 60 degrés au niveau des feuilles. Donc ça c'est un effet qui va être effectivement négatif. Et l'autre effet, évidemment, c'est le stress hydrique. Hein. Donc la plante, si elle n'a plus d'eau, comme je le disais, elle va d'un côté, elle va chauffer parce que l'évaporation, la transpiration de l'eau par la plante lui permet de se refroidir. Donc ça, elle ne peut plus faire. Et également, elle a besoin d'avoir de l'eau pour son fonctionnement. Hein. Donc si elle n'a plus d'eau, elle ne peut plus faire de photosynthèse non plus. Donc ça, c'est l'effet négatif, hein, qui est lié à la fois à l'augmentation de la température. Et alors, il y a un autre effet qui est celui du CO2 directement. C'est-à-dire que, en fait, là, le CO2 a un effet positif sur la production de la végétation parce que la machinerie photosynthétique est plus efficace si le CO2 augmente. Donc, au fur et à mesure que le CO2 augmente, on a une photosynthèse qui devient plus efficace. Et il y a même un deuxième effet qui est un effet qu'on appelle antitranspirant, c'est-à-dire que la plante a à sa surface ce qu'on appelle des stomates qui lui permettent de réguler ses échanges avec l'atmosphère. Et donc, plus il y a de CO2, plus la plante va fermer ses stomates, ce qui lui permet de garder plus d'eau. Donc elle devient plus efficace, qu'on appelle l'efficience d'utilisation de l'eau de la plante, hein, qui est la quantité qu'elle va transpirer par rapport à la quantité qu'elle va produire, de, enfin absorber de carbone. Eh bien ça augmente. Donc là il y a un deuxième effet bénéfique. Donc voilà, il y a ces deux effets antagonistes, qui fait que actuellement ce qu'on constate, c'est plutôt, en tout cas pour la végétation naturelle, on reviendra sur les cultures, mais c'est plutôt un effet positif. Actuellement ce qu'on observe, c'est qu'on a plutôt une augmentation de la productivité des plantes, à la fois parce que effectivement elles ont une saison qui démarre plus tôt, et parce que on a cet effet de fertilisation, on appelle du CO2. Mais avec le temps, l'effet, disons, des sécheresses qui augmentent pendant l'été, va après un certain temps, au contraire, devenir négatif. Et d'autant plus que, en fait, cette efficacité, cet effet de fertilisation, plus la quantité de CO2 augmente, et moins il devient efficace. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine quantité de CO2, on a encore loin, mais autour de 700-800 ppm de CO2, sachant qu'aujourd'hui on est à 400, là il n'y a plus d'effet supplémentaire. Donc là on peut toujours rajouter du CO2, les plantes n'en profiteront pas.
Donc elles seront saturées.
Donc c'est voilà, ces effets. Donc il faut bien comprendre ces effets antagonistes qu'il y a, hein, certains effets qui vont être positifs, certains effets négatifs, qui font qu'actuellement c'est plutôt des effets positifs. Dans certains cas, alors que bon, ce qu'on projette dans les scénarios, en tout cas, dont on a parlé, tout dépend du scénario qu'on prend en compte, hein, mais si on prend le scénario du laisser-faire, là évidemment on a on arrive à des effets qui deviennent négatifs dans la deuxième, disons, moitié du 21e siècle. Alors c'est même actuellement, c'est pas toujours des effets positifs, parce que on constate que, alors on n'en connaît pas exactement la raison, mais ce qu'on constate, c'est que il y a une stabilisation des rendements des cultures. Donc les rendements ont augmenté de façon régulière depuis les années 50, hein, grâce aux progrès techniques. Et bien que les progrès techniques continuent aujourd'hui, eh bien on constate que on a progressivement une stabilisation des rendements. Alors on ne sait pas exactement comment l'attribuer, mais probablement un effet climatique là-dedans. Et on constate également sur certaines forêts, par exemple, déjà des dépérissements d'un certain nombre de forêts en France, et là aussi probablement lié à un certain nombre de stress, disons, de sécheresse estivale.
Alors Frédéric Huard, vous êtes à Avignon, comment vous observez ces impacts sur les cultures, peut-être en revenant un peu sur le fameux cas de la vigne, qui semble être un révélateur plus marqué que les autres. Actuellement on est en pleine période de vendange dans certaines régions. Comment vous analysez précisément et peut-être localement ces impacts?
Alors, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Nicolas, la situation, elle est un peu contrastée aussi en fonction des plantes, hein. Les plantes d'hiver ou de printemps type le blé seront moins désavantagées par le réchauffement climatique, parce que en fin de compte elles seront moins sujettes aux températures, alors que les plantes estivales, donc notamment le maïs, va être directement en confrontation avec la hausse des températures, combinée aussi à des sécheresses estivales. Donc ce seront plutôt ces plantes-là qui vont subir le changement climatique. Et la vigne est aussi dans le même cas que le maïs, parce que elle va pousser donc surtout durant l'été, et elle va être confrontée à hautes températures et à des sécheresses estivales plus intenses. Donc là, ce que l'on constate sur la vigne, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la vigne, hein, mes collègues ici à Avignon sont plus spécialistes que moi, mais c'est que quand même on constate donc une modification donc des stades phénologiques, tel que on le mentionnait tout à l'heure, et ça a un impact aussi sur la maturité des grains. Et le problème aussi, c'est avec le changement climatique, et notamment la hausse des températures, à quelquefois pour certains cépages à une limite de leur aire bioclimatique, c'est-à-dire que certains cépages ne sont plus adaptés au climat actuel, et en tout cas à venir. Donc il y aura des adaptations, on en parlera tout à l'heure sûrement, à réaliser pour la viticulture. Alors toutes les régions ne sont pas à la même enseigne, n'auront pas les mêmes impacts, mais c'est pour ça qu'il faudra faire, il faut faire des analyses régionales et terroir par terroir.
On parle de la possibilité de cultiver la vigne sur l'ensemble du territoire français. Est-ce que c'est une perspective qui vous paraît réaliste?
Alors, dans les simulations que l'on a fait, d'un point de vue climatique, c'est possible dans un certain nombre de cas en adaptant les cépages aux régions, mais d'un point de vue climatique. Après, faut-il voir aussi les aspects d'Afrique, donc le sol, les orientations. Vous savez que la vigne est très impactée aussi par le terroir, hein, donc par les conditions du sol, d'orientation, d'ensoleillement, des choses comme ça. Donc, d'un point de vue climatique global, oui, ce serait possible pour certaines variétés, en adaptant les variétés. Après, tout le problème sera la qualité des vins qui seront potentiellement récoltés à ces endroits-là, quoi. Mais nous, par simulation, on voyait qu'une grande partie de la France pouvait être sujette à la production de vignobles, en tout cas de vins.
Alors, Sylvain Mondon, là, on voit un impact assez spectaculaire, hein, sur l'agriculture et sur la vigne, qui est une espèce de révélateur de ces effets. Mais effectivement, on a parlé de l'accroissement aussi de la productivité, mais qui peut être perceptible dans les forêts, qui peut être perceptible dans pas mal de domaines. Comment vous jugez ce début d'impact sur l'agriculture?
Alors, c'est vrai que d'un point de vue des professionnels, ce point est préoccupant, puisque c'est un des points pour lesquels on a le plus d'interrogations à l'ONERC, et notamment parce qu'on publie avec le comité des vins de Champagne un indicateur qui est à la baisse depuis 1987, qui est l'indicateur qui indique une précocité des dates de vendange, qui est en phase avec la précocité de la phénologie des dates de floraison de la vigne. D'une quinzaine de jours depuis 1987, donc c'est vraiment beaucoup. Et en termes de rendement, l'impact est aussi également perceptible, puisqu'on a un degré alcoolique potentiel supérieur de 0,8, ce qui donnerait, si avec les mêmes techniques de vinification et sans rien changer, donc un vin plus fort de 0,8 degré d'alcool.
Sachant que le degré a déjà augmenté au cours des dernières années.
Donc ce qui veut dire que pour maintenir une qualité équivalente au niveau gustatif, au niveau alcool, au niveau du rendement final, en fait les pratiques de vinification, les pratiques de récolte ont déjà évolué. Il y a déjà eu une adaptation spontanée à cette phénologie plus précoce de la vigne. Une des premières adaptations, ça se voit sur les dates de vendange. Et une deuxième adaptation, c'est sur la qualité du produit, qui compte eu des conditions différentes, la qualité en fait est constante. Donc c'est ce qu'on appelle l'adaptation spontanée. Donc le changement climatique pour ces personnes, c'est déjà du quotidien, au moins annuel, de manière annuelle, c'est intégré dans les pratiques.
Donc ils sont déjà à l'intérieur. Un autre phénomène qui d'ailleurs n'est pas indépendant de la culture, c'est la neige. Et il semblerait que la perspective soit vraiment une très forte réduction de la durée d'enneigement dans les montagnes, en particulier dans les moyennes montagnes, et donc probablement une perturbation du cycle de l'eau. C'est-à-dire que s'il y a moins de neige retenue dans les montagnes, eh bien elle va fondre plus tardivement peut-être, ou moins, et donc ça va décaler peut-être les crues ou les moments où il y a beaucoup d'eau disponible pour les cultures. Donc là encore, un impact qui est à la fois indirect pour ce qui est des cultures, mais direct pour ce qui est de l'industrie de la neige dans montagne, Éric Guillardy.
Oui, alors...
On parle même de disparition de certaines stations.
Oui. Le réchauffement, un degré de réchauffement correspond à peu près à un déplacement vers le nord de 150 km, on va dire. Donc, encore une fois, si on ne fait rien et qu'on se place vers le nord, de prenez le sud de l'Espagne, qui arriverait, d'accord, où il y a même élévation, il n'y a pas de neige. Mm-hmm. Hein, donc, il y aurait la même chose qui arriverait dans les Alpes et les Pyrénées.
Cette limite de la neige.
Voilà. Donc, effectivement, il y a déjà une part qui va être inéluctable du changement. Hein. Dans les 15-20 ans qui viennent, les choix qu'on va faire aujourd'hui n'auront peu d'impact, ce qui est aussi qui peut être un problème. Mais c'est vrai que les décisions de la COP21 ou qui amèneront à des réductions importantes commencent à avoir un impact donc dans 15-20 ans, hein, suivant les endroits. On parle d'un réchauffement moyen, l'altitude et la latitude amplifient ce réchauffement. Ça vient d'une rétroaction qu'on connaît bien. Quand il y a de la neige ou de la glace, les rayonnements du soleil sont réfléchis, puisque c'est plus blanc. Quand la neige ou la glace commence à disparaître, le sol nu lui a une couleur plus foncée, donc va absorber plus d'énergie et ça fait fondre plus de glace ou plus de neige, etc. Donc il y a l'altitude en montagne et les hautes latitudes sont plus touchées par le réchauffement, hein, ça démultiplie l'effet. Donc effectivement, si on, encore une fois, dans le scénario du laisser-faire, la neige de moyenne montagne disparaît à 75% à l'horizon 2100. C'est-à-dire de nombreuses stations de moyenne montagne et la durée de la saison pour des stations de plus haute montagne diminue, voire disparaît.
Voilà, on voit déjà l'effet sur des choses, des glaciers par exemple, hein, qui permettent d'avoir une photographie assez précise des impacts du réchauffement. Et on voit que la fameuse mer de glace a reculé déjà de 700 mètres en 30 ans et qu'elle devrait encore perdre 1,2 km d'ici 2040. Là, on parle d'échéances quand même très proches et d'impacts qui sont spectaculaires.
Oui, alors comme on le disait tout à l'heure, il y a une inertie dans le système et c'est vrai que le réchauffement en cours, il faut bien voir que plus de 90% de l'énergie liée au réchauffement climatique va se stocker dans l'océan. L'océan a des constantes de temps très longues, dizaines d'années, donc la machine est en marche et même si on arrêtait aujourd'hui d'émettre, il faudrait plusieurs centaines d'années pour revenir au normal. Bon, ceci étant dit, de continuer à accumuler va amener à, si on ne fait rien, va amener à des impacts bien supérieurs. Si on parle d'un réchauffement de 5 degrés en moyenne, c'est-à-dire que 8 à 10 degrés en haute montagne, enfin en montagne et aux hautes latitudes, c'est comparable à ce qu'a vécu la Terre lors de la dernière glaciation où il y avait 5 degrés de moins.
Hein, c'est-à-dire que c'est en amplitude. À l'envers.
Oui, voilà, c'est comparable à l'envers. Oui, pardon. Donc ce sont des impacts extrêmement importants. Alors on peut dire quelques degrés, c'est pas énorme, mais on peut prendre l'exemple de notre propre température. On a 1 ou 2 degrés de fièvre, bon, on prend une aspirine, ça passe. On arrive à gérer, on s'adapte, et quelques jours après, on reprend une activité normale. À 3-5 degrés de plus, qui est le scénario du laisser-faire, si on est encore en vie, on est en réanimation à l'hôpital. Hein, on a 41-42 degrés. Pour le climat, c'est le même type de sensibilité.
Alors Sylvain Mondon, est-ce que déjà au niveau de la neige, par exemple, qui a un impact direct sur une activité économique, qui est l'exploitation des stations de ski, est-ce qu'il y a un sentiment de danger et peut-être un début d'adaptation à ce qui s'annonce?
Alors déjà au niveau du constat, Météo France mesure des hauteurs d'enneigement au col de Porte, donc dans le massif de la Chartreuse à 1325 mètres d'altitude. Et pour une hauteur d'enneigement de 1 mètre, on a une durée de période d'enneigement pour cet endroit-là qui a diminué de 15 jours depuis 1960, entre 1960 et aujourd'hui. Donc c'est en termes de saison d'exploitation potentielle pour une station de ski, c'est beaucoup, 15 jours d'exploitation, surtout si on a des fins d'exploitation qui tombent pendant les vacances scolaires. Ça peut être la moitié de la saison en fait. Donc c'est déjà significatif à ces altitudes-là. Maintenant, il y a des altitudes encore plus basses, où par exemple dans des stations de 800 000 mètres qu'on trouve dans le massif central ou en bordure du massif alpin ou dans le massif pyrénéen, où on avait déjà un enneigement occasionnel. Une année sur deux, une année sur trois. Aujourd'hui, on arrive à des enneigements une année sur cinq, une année sur six. L'exploitation est en deçà de son seuil de rentabilité. Donc la question même de maintenir l'activité se pose. Donc, pour ces stations, c'est à peu près évident. Pour les stations d'un peu plus haute altitude, la question, c'est pas de continuer à faire du tourisme de neige ou pas. C'est jusqu'à quand j'investis pour faire ce type de tourisme de neige et comment je peux m'adapter si une adaptation est possible. Puisque ça pose des questions de neige de culture, mais qui vont aussi avec la consommation énergétique, avec la disponibilité de la ressource.
Vous parlez des canons à neige.
Oui, tout à fait.
Une façon de s'adapter.
C'est une manière de s'adapter, mais tout le monde ne peut pas avoir recours aux canons à neige, puisque le problème aussi du changement climatique, c'est la diminution du nombre de jours de gel. Et pour utiliser les canons à neige, il faut quand même que les nuits soient froides et en dessous de 0 degré. Sinon, on ne peut pas fabriquer de neige de culture.
Alors là, évidemment, on ne peut pas examiner tous les effets, mais il faut parler quand même de la mer, qui est un autre révélateur absolument marquant de l'effet du réchauffement climatique. Donc le niveau des mers augmente, c'est déjà perceptible, et cela peut, cela a déjà probablement des effets, Eric Guillardy, sur les côtes françaises.
Oui, alors on parle d'une augmentation d'à peu près 3-4 mm par an, alors de moyenne globale. Dans certaines régions, ça va être plus, dans d'autres moins, hein, puisque l'eau, même si elle nous apparaît plate, en fait, c'est que des bosses et des creux, alors qu'on ne va pas percevoir à l'œil nu. On peut aussi se dire par rapport à de l'amplitude d'une marée, c'est pas beaucoup. Mais en fait, ces impacts de la montée du... Alors déjà, à quoi est due la montée du niveau de la mer? Elle est due à la fonte des glaciers, hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est pas juste la mer de glace qui fond, c'est 90% des glaciers de la planète. Donc cette eau s'écoule jusqu'à l'océan par les rivières et ça fait monter le niveau de la mer. Donc ça, c'est une partie qui vient de ça. L'autre partie vient de la dilatation de l'eau de mer. Quand l'eau de mer est plus chaude, elle prend plus de place, donc elle se dilate. Donc,
aujourd'hui, on en est à combien d'augmentation du niveau de la mer?
Alors aujourd'hui, on en est entre à peu près 10-20 cm, hein, bon, encore une fois, suivant les endroits. Il y a des endroits comme par exemple le Pacifique Ouest, où les eaux sont déjà chaudes, pardon, où là, le niveau de la mer est monté déjà plus, hein, on est à une trentaine de centimètres. Alors pour des atolls qui font un mètre de hauteur moyenne, ça pose des soucis. Et en fait, cet impact du niveau de la mer qui monte se fait sentir dans des événements extrêmes. Quand il y a une tempête associée à une grande marée, les constructions, les digues, les habitations ont été construites pour ce qui avait été observé la plus haute, marée. Quand le niveau de la mer monte, ces digues ne tiennent plus, la nature, les barrières naturelles ne tiennent plus non plus. Donc c'est lors de ces événements extrêmes que cette augmentation du niveau de la mer se fait sentir et l'impact est à ce moment-là.
Voilà, parce que quelques millimètres, sinon, effectivement, ça n'est pas perceptible immédiatement quand la mer est calme.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Quels seront les impacts du changement climatique sur la France? Nous en débattons avec nos invités, Éric Guillardy, océanographe et climatologue, Frédéric Huard, ingénieur de recherche à l'INRA, Sylvain Mondon, météorologue à l'ONERC, et Nicolas Viovi, spécialiste des interactions entre végétation et climat. Alors, Frédéric Huard, on a parlé de ces modifications à la fois sur l'enneigement, sur la montée des eaux dans l'océan, mais il y a également des impacts sur la circulation des fleuves, l'eau disponible, et probablement aussi là un impact sur les cultures qui devront subir dans certaines parties de la France probablement des sécheresses plus souvent et plus longues.
Oui, tout à fait. On se focalise beaucoup, effectivement, sur la température parce que c'est le plus facile à analyser, à simuler. On a un réchauffement global sur la planète et puis après sur la France. Après, sur le cycle des précipitations et donc de la ressource en eau, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on a une variabilité géographique beaucoup plus importante avec beaucoup plus d'incertitudes dans les projections climatiques. Et là, c'est beaucoup plus difficile et on doit les prendre en compte pour, effectivement, les cultures parce qu'elles sont demandeuses, effectivement, d'eau. Et on constate que un certain nombre de régions, pour certaines cultures, vont être affectées par ce manque d'eau, par ces sécheresses estivales qui seront de plus en plus fréquentes.
Le maïs, par exemple.
Notamment le maïs. On voit que dans certaines régions, alors je parle surtout du sud-ouest, peut-être du Poitou-Charentes, on voit que la monoculture du maïs sera de plus en plus difficile à faire à cause de des stress hydriques qui seront de plus en plus fréquents au cours des années qui viennent.
Alors on voit qu'il est difficile de tout mentionner, mais Nicolas Viovi, sur la santé également, il faut dire que la perspective a quelques nouveaux problèmes.
Oui, alors il y a plusieurs effets. Il y a l'effet direct de la température, hein, puisqu'on sait que quand la température augmente au-dessus d'un certain seuil, ça devient un problème pour les humains, parce que nous, on doit maintenir une température fixée. Et donc, quand la température dépasse la température du corps, il devient de plus en plus difficile d'éliminer la chaleur.
On transpire dans ce cas-là.
On transpire. Et donc là, bon, on l'a bien vu en 2003, quand il y a eu la grande canicule, où on a eu une surmortalité, essentiellement des gens fragiles, hein, donc des personnes âgées ou des enfants. On a vu aussi que, fort heureusement, on sait s'adapter, c'est-à-dire que, par exemple, cette année, il y a eu aussi une canicule, les conséquences ont été beaucoup moins fortes, même si elle était un peu moins forte que 2003, mais malgré tout, il y a quand même eu des canicules, et parce que l'expérience de 2003 nous a permis de nous adapter. Donc ça, c'est un premier effet. Et puis après, il y a des effets sur les maladies, parce que ça veut dire que on a parlé il y a un certain nombre de virus qui peuvent se développer, qui pourront se développer dans l'avenir. Donc, on trouve dans des régions tropicales, par exemple, hein, et qui vont trouver maintenant des conditions favorables pour se développer. Un autre exemple, c'est effectivement les problèmes d'allergie. au pollen, hein, par exemple, il y a une plante qui s'appelle l'ambroisie, qui est alors là aussi une plante qui a été introduite en Europe depuis les États-Unis, et on a publié une étude qui montrait que dans l'avenir, d'ici 2050, on aurait à peu près un quadruplement des concentrations en pollen. Alors c'est une plante qui est extrêmement allergène, beaucoup plus allergène que toutes les autres, donc c'est pour ça que c'est vraiment une question critique. Alors sachant que là il y a un effet, il faut bien voir que pour tout ce qui est maladies émergentes et biodiversité d'ailleurs en général, c'est pas simplement le changement climatique qui est important, c'est plus généralement ce qu'on appelle le changement global, c'est-à-dire que ça va être aussi lié à l'utilisation des terres, à des choses comme ça, c'est-à-dire que pour pouvoir se développer ces vecteurs, alors que ce soit des plantes comme l'ambroisie ou un certain nombre de parasites, ils vont pouvoir se développer en fonction des types de cultures ou autres que l'on va prendre. Par exemple, l'ambroisie est un bon exemple. C'est une plante qui se développe pas dans des milieux fermés comme la forêt, etc. C'est une plante pionnière, ce qu'on appelle. Donc, elle sait se développer très vite dans des zones ouvertes. Par contre, elle est pas compétitive par rapport à d'autres plantes. Donc, dès que d'autres plantes vont pouvoir s'installer, elle va disparaître. Et donc, c'est une plante qui se développe typiquement dans les milieux agricoles, dans les zones urbanisées. Donc là, on a vraiment une interaction importante sur tous ces aspects-là entre le facteur climatique et aussi l'aménagement du territoire.
Sylvain Mourdon, est-ce que c'est une des préoccupations qui remonte à l'honneur que la santé liée à cette élévation de température?
Alors effectivement, c'est un sujet très préoccupant, surtout depuis la canicule de 2003, hein, puisque avec les projections climatiques, même sans être dans des scénarios du laisser-faire, sur des scénarios médians, la vague de chaleur de 2003 pourrait être un été moyen en 2100. Donc ça veut dire que si on ne fait rien, les populations seront exposées à des risques élevés. Donc inversement, on ne peut pas rien faire. Donc c'est en termes de santé publique, la première réponse a été le plan canicule. Mais c'est le premier niveau en fait de d'adaptation. Et ensuite, il faut réfléchir à des choses un petit peu plus long terme que de faire face à la crise ou d'anticiper la crise, qui est notamment d'éviter de renforcer l'effet de chaleur, d'îlot de chaleur urbain qu'on trouve dans les villes, où le cœur des villes est plus chaud que la périphérie. Et ce phénomène qui s'amplifie en période de vagues de chaleur est extrêmement important pour la vulnérabilité des populations. Donc ça devient une question d'urbanisme, ça devient une question d'aménagement, tout comme pour la biodiversité. Donc on voit que le changement climatique, faut pas le rendre à l'origine de tous les problèmes, hein, mais le changement climatique est un paramètre dont il faut tenir compte pour beaucoup de domaines des activités humaines.
Oui, on voit la diversité des actions et aussi les liens entre ces différentes actions. Quand on parle d'enneigement, ça a un impact sur le cycle de l'eau et sur la culture et sur la santé également, puisque certaines bactéries ou certains virus pourront se développer différemment suivant la température. Et là, on approche du terme de l'émission et peut-être qu'il faut parler de la COP21 et de la perspective qu'elle offre dans ce contexte qu'on vient de décrire et dans ce contexte déjà d'une actualité du réchauffement, mais la perspective d'un renforcement de tous les effets dont vous avez le détail dans ce numéro de Science et Vie qui en fait vraiment un portrait très très précis et dans six régions différentes en France. Et Éric Guillardy, est-ce que c'est quelque chose qui va, à votre avis, cette perception plus actuelle du réchauffement climatique peut avoir un effet sur la COP21 et éviter de retomber dans certaines... Vous avez un peu contesté le terme échec, mais dans les échecs précédents, enfin, parce qu'il n'y a pas eu de décision véritablement contraignante de prise dans les COP21, les COP précédentes, les COP de 1 à 20. Comment vous voyez la COP21 dans ce contexte?
Alors, quelque chose qu'il n'y a pas dans le numéro spécial de Science et Vie, ce sont les impacts les impacts en France qui vont être liés à ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, on en parle partout, on a des vagues de personnes qui fuient les zones de guerre dans le Moyen-Orient. Ces guerres ont été rendues pires par des sécheresses qu'il y a eu dans ces régions-là. Hein. Depuis 10 ans, il y a des sécheresses régulières qui poussent donc l'exode vers les villes, qui augmentent les tensions.
En plus des raisons politiques.
En plus des raisons politiques, mais ça les empire. Ça, c'est ce qu'on disait aussi sur la canicule. L'accès à l'eau ou le manque de ressources va empirer des problèmes ne va pas aider à les résoudre, elle va les rendre encore pires. Donc, on a une vague de migrants en ce moment en France où, oh là là, on crie partout, 100 000, 200 000, 300 000, 800 000. Si on ne fait rien, si on continue dans notre scénario du laisser-faire, c'est pas quelques centaines de milliers de migrants qu'il y aura, qui viendront des pays touchés. C'est des dizaines de millions. Donc, ça montre bien que c'est bien de regarder les impacts en France, mais à mon avis, le principal impact, si on ne fait rien, ça sera ça. Ça ne sera pas une petite modification du vin ou de. Donc l'enjeu des COP, c'est ça, c'est de réfléchir tous ensemble comment on fait pour limiter ces impacts. Et c'est vrai que, on va dire manque de chance, les pays industrialisés et riches et qui ont les moyens sont dans les pays qui seront les moins touchés par le réchauffement climatique. Alors hier, on voit des impacts, etc. Mais l'enjeu de la COP...
Ils seront touchés par les migrations.
Ils seront touchés par les migrations. Donc c'est vraiment l'idée de dire, et dans ce train du climat dont vous parliez, il y a une interview de Michel Serres qui est magnifique, qui dit que on est dans un même bateau. On a l'habitude de se faire la guerre économique. Et là, on a fait un trou dans la coque. On vient de mettre 25 ans à se rendre compte qu'on avait fait un trou dans la coque. Et maintenant, on sent cette prise de conscience qu'il va falloir le réparer ensemble. Parce qu'il n'y a pas... les bons, les méchants, les riches, les pauvres, on est tous dans le même bateau.
Frédéric Huard, comment percevez-vous cette COP21 et les enjeux, peut-être à travers le prisme de ce que vous avez pu observer sur le terrain ?
L'enjeu est global, effectivement, notamment dans la stratégie aussi de nourrir une planète toujours plus nombreuse. Donc ça sera un enjeu qui est important, qui devra être discuté durant la COP21 en lien avec le changement climatique. Comment nourrir 10 milliards de personnes avec un changement global qui affectera notamment l'agriculture. L'agriculture qui est, comme je le redis, émettrice de gaz à effet de serre, donc avoir des pratiques un peu plus vertueuses. Voilà, c'est toute une stratégie à adopter et qu'il faudra discuter lors de ces échanges, lors de la COP21.
Nicolas Viovi, même question. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette COP21 et peut-être aussi, quelle est votre prévision ou projection, on va faire la distinction, sur ses chances de succès?
C'est sûr qu'il est difficile de voir les chances de succès. Alors je sais que on a vu pas mal d'articles sortir sur le fait que déjà les intentions qui étaient données étaient très loin pour obtenir les fameux 2 degrés de température et que les intentions de chaque pays étaient limitées à ce qui était donné, on n'atteindrait pas ces 2 degrés, mais nettement plus. Ceci étant dit, il y a un paradigme un peu différent pour cette COP21 que pour les précédents, c'est-à-dire que là effectivement, avant on avait tenté quelque chose de contraint, ce qui n'avait pas du tout marché parce que les gros émetteurs n'avaient pas du coup voulu accepter, signer, comme les États-Unis, la Chine. Là, on est parti sur un paradigme différent qui est de dire, chacun va apporter sur la table ce qu'il, d'un point de vue volontaire, ce qu'il veut faire. Ce qui veut dire que ça n'est que des intentions, donc c'est toujours ça le problème. D'un autre côté, on peut espérer que peut-être ça marchera mieux. Enfin, en tout cas, c'est bien de tenter une autre voie.
Est-ce que c'est un peu la dernière chance là où...
Ah, c'est jamais la dernière chance. Ce qu'il faut aussi voir, une chose qui est importante, c'est qu'on parle toujours de ces 2 degrés, mais c'est pas en tout ou rien. C'est-à-dire que même si on n'atteint pas ces 2 degrés, si on atteint 3 degrés, ça sera toujours mieux que si on en atteint 4, que si on en atteint 5. Donc il faut quand même aussi avoir conscience que c'est pas donc il est toujours important d'arriver à faire des efforts, même s'ils sont pas aussi importants qu'on l'aurait espéré. Ça sera toujours mieux que de ne rien faire.
Sylvain Mondon, comment vous voyez cette COP21 et les perspectives d'infléchir cette fameuse courbe du laisser-faire dont on a parlé plusieurs fois dans cette émission et qui est celle sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui?
Alors, il est certain que l'objectif, c'est l'inflexion. C'est qu'un jour, il y a un pic d'émissions et qu'ensuite, les émissions réduisent pour que la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère diminue.
Alors qu'elle n'a cessé d'augmenter.
Que pour l'instant, elle augmente. Donc, l'idée, c'est la première étape, c'est l'inflexion, après la stabilisation et ensuite la baisse. Et pour moi, la COP21, c'est une étape dans ce processus. Et l'idée, c'est de mettre en perspective cette inflexion. Donc si on a une mise en perspective de cette inflexion dans la COP21 et dans les COP qui suivront, on pourra dire que c'est une réussite. Maintenant, il ne faut pas en faire une fin en soi, tout ne sera pas réglé là. Il faut vraiment que la dynamique s'engage et que l'inflexion soit dans l'horizon de visibilité. À partir de là, on pourra passer à l'étape d'après qui va être de réduire encore plus sur la base des premiers engagements qui ont été faits ou des premières contributions pour que ça se renforce. Mais pour ça, il y a aussi des changements structurels. C'est pour ça qu'on parle de transition écologique, de transition énergétique. Il y a aussi des modèles qui doivent changer pour que tout ça devienne possible. Quand on parle de scénarios à émissions négatives, ça implique des transitions, et des transitions dont certaines ne sont pas encore connues, mais sur lesquelles il va falloir travailler. Donc ça implique aussi des investissements, ça implique beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Et je crois aujourd'hui, mais ça c'est tout personnel, je crois qu'aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont prêtes à être mobilisées pour ça. Et en tout cas, en tant que membre de l'équipe de négociation, on fera tout pour que ça soit le cas.
Et vous sentez aujourd'hui que la France est prête à agir dans ce domaine ? Bah là, avec la loi sur la transition énergétique, vous paraît aller dans ce sens ?
En tout cas, la France est mobilisée, et la France a un des points importants de la France, c'est qu'aujourd'hui la France est regardée, puisque la France va accueillir la COP. Donc la France se doit d'être mobilisée, se doit d'agir dans le bon sens.
Eh bien, ce sont sur ces mots que le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Éric Guillardy, Frédéric Huard, Sylvain Mondon et Nicolas Viovi d'y avoir participé. Vous pouvez approfondir notre sujet en lisant l'enquête réalisée par Vincent Nouiriga et que le magazine Science et Vie publie dans son numéro de novembre 2015 sous le titre « Climat, le tour de France des régions », un numéro que vous pouvez trouver en kiosque. Sur notre site, vous trouverez les références du livre d'Éric Guillardy, dont on n'a pas dit tout le bien que nous en pensons, mais c'est le cas. Donc Éric Guillardy qui a écrit ce livre avec Catherine Guillardy, et qui est livre intitulé « Que feriez-vous si vous saviez, des climatologues face à la désinformation ?» Livre qui vient d'être publié par les éditions Le Pommier. Toujours sur notre site, vous trouverez un lien avec le site de la COP21 et avec celui des messagers du climat, donc qui ont organisé le train du climat qui a parcouru la France jusqu'à dimanche dernier dans 19 villes. Vous pouvez également sur notre site réécouter cette émission, comme toutes celles de Culture Science, pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an, et bien entendu nous faire part de vos réactions et commentaires. La semaine prochaine, vendredi 6 novembre, Science Publique se penchera sur une question que nous nous posons tous. Comment pouvons-nous maîtriser notre mémoire? Nous en parlerons à l'occasion des Open de mémoire qui se dérouleront à Massy, près de Paris, les 6 et 7 novembre, et qui constituent le championnat de France de la mémoire. Comment améliorer notre mémoire? Comment lutter contre ces troubles? Telles seront les questions que nous aborderons avec nos invités, parmi lesquels Sandrine Laurent, Jean-Louis Swiners et Marie-Françoise Tuillier. Sciences Publiques, Dany Journeau, Jean Frédérix, Marie Dalquier, Michel Albergantin.